Le rendez-vous du libraire. Le rendez-vous du libraire, une émission proposée par la librairie de la Trinité et animée par Agathe de Grey.
Chères lectrices, chers lecteurs, bonjour. Cette semaine, les livres de nos étagères traitent d'un lieu peu commun, le cimetière du Père Lachaise. À l'occasion de la parution de l'ouvrage du conservateur des lieux, je vous propose de vous plonger avec moi dans la poésie des cimetières.
Le rendez-vous du libraire. Le coup de cœur de la semaine.
Le 27 octobre dernier, un livre étrange est apparu sur les étagères de notre librairie. La vie secrète d'un cimetière. Cette publication, qui semblait annoncer à sa façon la venue de la Toussaint, a eu tôt fait de nous enchanter. Nous tenions en effet le livre publié par Benoît Gallot du Père Lachaise, salué comme étant probablement le conservateur de cimetières le plus connu du monde. Tout commence le 23 avril 2020, en plein confinement, alors que les morts de la Covid-19 sont inhumés quotidiennement dans le cimetière. Au détour des stèles, un renardeau se met au travers du chemin de Benoît Gallot. Le cliché de la rencontre saugrenue, publié sur les réseaux sociaux, fait rapidement boule de neige et se retrouve bientôt à la une du quotidien Le Parisien, aujourd'hui en France. Il n'en fallait pas davantage pour que le conservateur s'attache à attiser cette soudaine curiosité pour son travail et ses lieux peu communs à l'aide de son compte Instagram La Vie au cimetière, sur lequel il publie les clichés du petit monde qui s'agite entre les tombes. Car il n'y a pas que la mort au cimetière. Écho et poursuite de sa démarche, le livre de Benoît Gallot nous plonge donc dans la vie secrète du cimetière. Réensauvagement, depuis la décision du Conseil de Paris en 2011 de laisser le cimetière reverdir, quotidien des discrets travailleurs de l'ombre, gardiens, fossoyeurs, cantonniers, hommage des visiteurs aux défunts, terminé le cimetière propret, la traque aux herbes folles, le recours massif aux produits phytosanitaires. Le Père Lachaise est devenu un écosystème à part entière, que vous pourrez explorer aux côtés de Benoît Gallot. Au fil des pages se succèdent photographies et anecdotes, toutes attachées à défaire le mythe de l'endroit pour laisser reparaître son mystère et sa poésie. Le conservateur vous emmène dans une visite guidée d'ampleur, s'emploie à détricoter les rumeurs et à nous conter les multiples légendes qui s'attachent au lieu. Du sphinx nu d'Oscar Wilde à l'arbre au chewing-gum de Jim Morrison, ce livre vous emportera également dans les allées les plus méconnues du cimetière. Plan en main, puisqu'il est fourni dans la reliure de l'ouvrage, vous pourrez littéralement arpenter les pavés disjoints du Père Lachaise dans une lente et consolante balade de l'entre-tombe. Offrez-vous ce livre automnal comme une promenade en forêt, une invitation à pousser la porte des cimetières. Si l'ouvrage de Benoît Gallot ne devait nous apprendre qu'une chose, c'est qu'avoir affaire avec les morts est toujours d'abord avoir affaire aux vivants, au pluriel comme au singulier. Ouvrez-vous donc à cette poésie de la pierre et de l'herbe folle. Difficile, à la suite de cette lecture, de se résigner à quitter le cimetière. Cette poésie à laquelle nous invite Benoît Gallot, ses épitaphes qui sont autant d'invitations à la beauté, se retrouvent également en littérature. Il y a peu, paraissait en poche un ouvrage avec le Père Lachaise pour cimetière et décor, puisque tout y commence dans l'arbre surplombant la tombe de Guillaume Apollinaire. Je vous invite à découvrir La dixième muse d'Alexandra Kosalik.
Le rendez-vous du libraire. Les nouveautés de la semaine.
De la tombe d'Apollinaire surgit ici la vie, la passion. On suit dans ce roman le personnage de Florent, qui, en visite au cimetière où les racines des arbres étouffent les canalisations, cueille auprès du tombeau d'Apollinaire un morceau de bois, comme un souvenir à rapporter chez soi. De là, tout commence. Une envie subite de se plonger dans la poésie d'Apollinaire, de redécouvrir un poète abandonné depuis le lycée. Bien vite, Florent cède à ses fringales poétiques, s'immerge dans les biographies. La tombe du Père Lachaise devient la première chapelle d'un long pèlerinage, mais bientôt les hallucinations s'invitent dans un récit où la fée verte n'est plus l'alcool mais la nature retrouvée, ensauvagée, dans un vaste mouvement romantique. L'autrice nous emmène dans un récit halluciné où Florent se découvre de multiples liens avec le poète disparu, devine des pans entiers de sa biographie ignorée et la forme de l'ouvrage prend alors une dimension didactique. De chapitre en chapitre, l'autrice abandonne parfois Florent pour se glisser dans l'esprit des amours du poète et nous inviter dans des scènes de la vie de ses muses, Madeleine Pagès, Annie Plaienne et bien sûr Louise de Coligny-Châtillon, dite Lou. Le roman devient ainsi biofiction. Nous en apprend beaucoup sur l'auteur d'Alcool, nous propose un voyage romantique empreint de mystères et d'énigmes hallucinatoires, et nous mène à la recherche de la dixième muse, le dixième grand amour du poète, la source fantasmée par l'autrice de tout son art, et dont la révélation fait la chute de ce roman étrange. Plongez-vous dans la dixième muse d'Alexandra Koslik, comme on partirait en pèlerinage littéraire entre les pages d'Apollinaire, au gré d'une fiction documentée et stylistiquement riche qui se visite comme un jardin gothique réensauvagé. Parce que ces réensauvagements littéraires se font souvent dans une esthétique romantique, que le Père Lachaise est un haut lieu maintenant de ce courant, tant dans sa forme actuelle que dans la liste de ses occupants, que le redéploiement du monde sauvage dans notre nature disciplinée devient un enjeu écologique majeur, il nous semblait pertinent de clore ces pittoresques promenades par un essai d'une grande rigueur, liant esthétique littéraire, ensauvagement et écologie. Place à la nouvelle étude de Robert Seyre, sociologue de la littérature et professeur émérite à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, et Michael Lowy, sociologue et philosophe, directeur de recherche émérite au CNRS, intitulé « Romantisme, anticapitalisme et nature ».
Le rendez-vous du libraire. Les nouveautés de la semaine.
Dans cet essai, Robert Seyre et Michael Lowy défendent une thèse. Loin d'avoir été seulement une esthétique littéraire du XIXe siècle, le romantisme serait une vision du monde, une protestation culturelle contre la civilisation capitaliste et une critique radicale des dégâts que la transformation des biens communs en marchandises serait susceptible de causer dans l'environnement, dépourvu, lui, de valeurs quantifiables et cependant infiniment précieux. Il n'est pas question ici de supposer que le mouvement romantique dans son intégralité a toujours eu au travers de chaque artiste cette même portée politique, mais simplement pour les auteurs de souligner les affinités électives entre cette vision du monde et la défense politique de l'environnement. Affinité née d'une même reconnaissance du caractère sacré de la nature. De l'éloge de la vie sauvage de Rousseau et celui des forêts par François-René de Chateaubriand dans Génie du christianisme, en passant par les pérégrinations de l'écrivain et auteur Alexander von Humboldt en terres amérindiennes et les élégies de John Clark qui pleurent le morcellement privatif des terres jusqu'ici sauvages de sa campagne, les auteurs nous emmènent d'abord dans un tour d'horizon des débuts de l'écocritique romantique, avant de développer six figures associées à six thématiques. La critique environnementale avec le botaniste voyageur William Bartram, le désastre écologique avec le peintre Thomas Cole, l'utopie écologique avec l'artisan William Morris, la dénonciation du meurtre de la nature avec Walter Benjamin, l'écologie socialiste avec le critique littéraire Raymond Williams et la guerre climatique avec l'essayiste militante Naomi Klein. Six figures, unies en particulier par leur affection pour un rapport antique et sacré à la nature, tel que fantasmé dans l'époque médiévale ou étudié dans les philosophies indigènes. Avec cette étude, les deux auteurs nous plongent au cœur des problématiques et philosophies romantiques telles qu'elles sont apparues de la fin du XVIIIe jusqu'à aujourd'hui, et proposent à nouveau un travail de sociologie de la littérature d'une grande rigueur, axé sur la vision du monde romantique, dans la lignée de leur précédent ouvrage « Révolte et mélancolie, le romantisme à contre-courant de la modernité ». Penchez-vous sur cet essai fascinant et sa plongée aux sources d'une conception romantique de la nature. Du cimetière du Père Lachaise à un essai sur le romantisme, en passant par la réécriture de la biographie d'Apollinaire, je vous aurai emmené cette semaine dans une chronique littéraire ensauvagée, aux allures de balade en forêt. Il est temps pour moi de clore cette émission et de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Rendez-vous du libraire. Vous retrouverez bien sûr tous les ouvrages présentés et bien d'autres, sur les étagères de notre librairie de la Trinité à Toulouse.